Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Étienne Alain Hubert et Robert Kopp, pour le tome 4 des œuvres complètes d'André Breton et l'album Breton dans la bibliothèque de la Pléiade. Voir, entendre n'est rien. Reconnaître ou ne pas reconnaître est tout. Entre ce que je reconnais et ce que je ne reconnais pas, il y a moi. Et ce que je ne reconnais pas, je continuerai à ne pas le reconnaître. Il y a dans ce que j'aime reconnaître et ce que j'aime ne pas reconnaître. C'est, je pense, à la conception de ce rapport entre tous fervents que le surréalisme s'est élevé et s'est tenu. Étienne Alain Hubert, on connaît vos travaux sur Pierre Reverdy. D'ailleurs, je vais vous faire un aveu, il y a un petit moment que j'attends l'édition des œuvres complètes de Reverdy, enfin disponible, car il y a eu une édition il y a une bonne vingtaine d'années déjà.
Oui, enfin, vous êtes modeste, il y a beaucoup plus longtemps de 20 ans. Elle a commencé en 1970-72, moi j'ai collaboré de façon intensive à partir de 75. Et puis les volumes se sont épuisés, donc les éditions Flammarion ont eu la bonne idée de remettre en chantier une réédition qui permettra de révéler, je pense, au public un certain nombre de textes qui étaient inconnus ou qui étaient oubliés.
On l'annonce depuis un moment, cette édition. Vous pensez qu'elle va enfin paraître ?
J'y travaille activement.
Alors, quand vous ne travaillez pas sur Pierre Reverdy, vous travaillez sur André Breton, vous avez dirigé le quatrième et dernier volume des œuvres complètes dans la Pléiade, intitulée « Écrits sur l'art et autres textes ». Il faut rappeler que c'est Marguerite Bonnet qui a introduit Breton dans cette célèbre collection. Elle était venue d'ailleurs au moment de la publication du premier volume dans « Du jour au lendemain », c'était en 1988, et vous avez repris le flambeau.
J'ai été associé par Marguerite Bonnet à l'édition à partir des années 85-86, mais je n'étais que le collaborateur, et puis malheureusement, Marguerite est morte il y a une quinzaine d'années, et j'ai pris cet héritage avec, non sans trembler, parce qu'il était difficile de se tenir à la hauteur de ses exigences intérieures, mais j'espère n'avoir pas trop démérité.
Et vous pensez que la place de Breton et du surréalisme est bien dans cette collection patrimoniale qu'est la bibliothèque de la Pléiade ?
Je ne sais pas ce qu'aurait pensé Breton, mais enfin, il me semble que il allait de soi que Breton prit place dans cette collection à laquelle Marguerite Bonnet avait apporté une compétence, une vigilance tout à fait étonnante et qui a permis, je crois, de faire découvrir des textes de Breton ou de les faire comprendre à beaucoup de lecteurs qui avaient jusque-là du surréalisme une idée, disons, un peu simpliste ou bien chez qui la ferveur l'emportait parfois sur la compréhension.
Robert Cope, on connaît vos travaux sur la littérature, l'histoire des idées au XIXe siècle et au XXe siècle. Vous avez publié de nombreuses études sur Chateaubriand, Balzac, Victor Hugo, Nerval, Baudelaire, et plus près de nous sur Pierre-Jean Jouve et Yves Bonnefoy. Et tout d'un coup, voilà, vous vous lancez dans l'album André Breton de la Pléiade, qui n'est pas une biographie à proprement parler, c'est un choix iconographique que vous avez fait et que vous commentez.
Oui, ça fait très longtemps que je travaille sur Breton. Quand j'ai été nommé tout jeune professeur à l'université de Bâle, j'ai consacré mon premier cours au surréalisme, aussi pour mettre un peu de distance entre moi et l'institution, et un peu en hommage à mon plus illustre prédécesseur dans cette chaire, qui était Marcel Raymond, et qui a fait ce grand livre de Baudelaire au surréalisme. Alors, ayant été nommé comme jeune baudelairien, je voulais rendre hommage au surréalisme, et les premières publications datent d'il y a 30 ans déjà. Et c'est vrai qu'entre-temps, je me suis intéressé aussi à d'autres auteurs qui étaient d'ailleurs en partie à l'opposé de Breton, comme Pierre-Jean Jouve, par exemple.
Et là, alors, donc, c'est un retour à la case départ.
C'est un peu un retour
sans,
à la case départ.
Sans passer par la prison.
Non, c'est un retour à la case départ, et ce n'est pas une biographie, comme vous l'avez dit, parce qu'il existe d'excellentes biographies de Breton, et il n'y avait pas lieu de raconter une nouvelle fois sa vie. J'ai voulu choisir un angle un peu particulier qui est celui de l'image. D'autant que le texte est largement illustré et que l'album accompagne le quatrième tome des œuvres complètes qui sont précisément consacrées au texte sur la peinture et sur l'art en général.
Donc vous avez voulu, comme l'avait fait du reste Dominique Bozo pour la grande exposition Breton du Centre Georges Pompidou, montrer que c'est bien l'image qui est au centre du projet d'André Breton.
Je crois que l'image occupe en effet une place centrale. Le surréalisme, on l'a dit et redit et à juste titre, est un mouvement de refus, de révolte, révolte violente souvent, de rejet de beaucoup de choses, sinon de tout, y compris les conditions qui sont faites à l'homme dans sa vie. Et un des moyens pour faire sauter toute une série de verrous, je crois, a été pour Breton l'image. Il reconnaît à certaines images au moins un pouvoir véritablement subversif.
Mais vous dites aussi, et là on reconnaît le lecteur d'Yves Bonnefoy, que le surréalisme, c'est une philosophie de l'un.
Oui, le surréalisme est une philosophie de l'un, parce que, Breton le dit et le redit, dans ses manifestes et dans d'autres textes, cette recherche du point suprême, qui rappelle un peu la recherche du point suprême par certains romantiques allemands d'ailleurs, ce point suprême où il n'existerait plus ni de haut ni de bas, ni de l'intérieur, de l'extérieur, ni de jour ni de nuit, c'est-à-dire c'est l'oxymore en quelque sorte, c'est la coïncidence des contraires. Ce serait la pierre philosophale presque que l'on rechercherait.
Donc une philosophie qui viendrait en droite ligne du romantisme allemand.
Oui, qui est nourri aussi du romantisme allemand, qui est nourri aussi des penseurs de cette époque, de Hegel par exemple et d'autres, et qui s'intéresse aussi aux mystiques.
C'est une philosophie qui emprunte à l'alchimie et aux mystiques dans l'espoir de réunir les contraires, parce que vous présentez Breton également dans votre texte comme l'homme de toutes les contradictions.
Oui, c'est l'homme de toutes les contradictions, je crois. Et surtout, c'est quelqu'un qui a essayé d'explorer toutes les voies de la connaissance autres que la connaissance rationnelle. D'où son intérêt, pour ne pas dire sa fascination pour la magie, la sorcellerie, l'astrologie, la parapsychologie, c'est-à-dire toutes les voies autres, le sommeil, les rêves, l'hypnose, les drogues, tout ce qui ne relève pas de la connaissance rationnelle. Essayer d'explorer d'autres voies.
Et faire communiquer le rêve et la réalité.
Et faire communiquer le rêve et la réalité, essayer d'établir des passages, des passerelles, et en se servant aussi d'instruments mis à disposition à l'époque, par exemple par la psychanalyse. Breton a été un des premiers lecteurs de Freud en France. Le surréalisme a été un des premiers mouvements à s'intéresser systématiquement à la science des rêves et à essayer de faire fructifier cette science des rêves dans leurs travaux.
Vous aussi, Étienne Alain Hubert, vous êtes d'accord sur cette approche d'André Breton comme celui qui a rencontré l'ésotérisme. Vous le disiez dans votre introduction au volume précédent, au tome 3.
Oui, c'est une approche qu'on a très souvent caricaturée. Alors, je ne suis pas certain qu'il faille imaginer un Breton qui a les bras grands ouverts pour accueillir tous les messages qui sont simplement étranges. Il y a chez lui une très forte exigence, une rigueur dans cette approche. Et d'ailleurs, il s'en explique dans un texte qui est dans ce volume, dans un questionnaire sur l'alchimie. D'abord, il prend ses distances vis-à-vis de l'alchimie conventionnelle, l'alchimie vulgaire ou de l'astrologie vulgaire que l'on trouve dans les journaux ou ailleurs. Et il pense qu'il y a une décadence de l'astrologie. Mais ce qui reste fascinant chez lui, ce qui reste un objet de fascination pour lui, c'est cette grande tentative des alchimistes ou des astrologues pour essayer de concevoir ce qu'il appelle un grand jeu multidialectique. Alors que nous vivons dans un monde de la causalité linéaire, l'astrologie, par exemple, en montrant, en suggérant que l'homme pourrait être au centre d'influences très diverses, nous fait sortir de cette linéarité qui, pour lui, est quelque chose de tout à fait insupportable, oppressant. Et alors, il a, dans cette approche de l'astrologie ou de la chimie, il peut mécontenter, évidemment, tous ceux qu'il appelle les adeptes. Je ne suis pas pour les adeptes, il le dit dans un poème célèbre. Et il adopte au contraire une position qui va toujours dans le sens de l'analogie. Ce qui l'intéresse dans l'astrologie, par exemple, c'est qu'elle développe le sens analogique. C'est qu'elle va, elle encourage les images. C'est qu'elle encourage notre pouvoir de mettre en relation l'extérieur et l'intérieur. Alors, ce qui est très frappant, c'est que dans ses lectures, dans ce qu'il retient, dans ses classiques de l'astrologie, c'est qu'il donne la préférence à des ouvrages qui sont, pour ainsi dire, sérieux. Par exemple, il y a un certain Chouanard qu'il découvre en 1925, qui a fait un traité d'astrologie scientifique. Il va s'en servir pour établir ses horoscopes, qui peuvent nous faire sourire évidemment un peu aujourd'hui. Et quand, dans les années 50, il découvre un livre tout à fait extraordinaire qui s'appelle « Le temps et le rêve », qu'il va citer plusieurs fois dans ce quatrième tome, dans les 16 quatrièmes tomes, c'était un Anglais qui s'appelait Dune, et ce Dune qui était à la fois un inventeur, un pionnier de l'aéronautique qui avait inventé l'aile volante, était aussi un mathématicien, un philosophe amateur, et qui avait essayé de repenser les problèmes du réel et du rêve à la lumière de la théorie de la relativité. Et Breton est fasciné par cela, parce qu'il y a en lui toujours cette exigence de rigueur qui, évidemment pour nous c'est un peu surprenant, qui va de pair avec cette grande ouverture à tous les vents, c'est pas de l'instant, de l'occasionnel, de l'inattendu.
Mais comment concilier cette grande ouverture à tous les vents, toutes ces passions que vous avez rappelées, avec une conception du monde qui a été quand même une conception matérialiste?
Oui, je crois qu'il faut parler. Vous avez raison de parler du matérialisme de Breton, mais c'est un matérialisme passionné. De même qu'il y a, je n'oserais pas dire, un rationalisme chez lui, mais ce n'est pas pour rien qu'il a fait un sort aussi généreux au terme, à la notion de surrationalisme qu'avait lancé Bachelard en 35-36. Le Bachelard qui s'intéresse à tout le côté imaginatif de l'esprit scientifique et qui publie en 1936 dans la revue Inquisition un texte sur le surrationalisme qui va toujours hanter Breton. Alors voilà, et c'est vrai qu'il y a des vents contraires, il y a à la fois un lecteur extrêmement attentif de Freud, un lecteur combien attentif de Hegel, qu'il lit dans ses traductions du XIXe siècle, plus personne n'a en main, ce qui donne d'ailleurs à le notateur des travaux de relecture et de dépouillement parfois assez terrifiants, pour retrouver dans la philosophie de la nature de Hegel une expression de trois lignes, une phrase de trois lignes, c'est quelquefois long. Mais ça démontre très bien qu'il y a, il trouve dans Hegel comme dans Fourier, des exemples de systèmes qui essaient de rendre compte de tout. De tout, soit dans l'instant, soit dans le devenir. Et on ne peut pas, je crois, saisir la pensée de Breton si on n'a pas présent à l'esprit cette grande imprégnation, d'une part, du système de Fourier, et au-delà, précédemment, de la pensée de Hegel, de l'anthropologie de Hegel, de la cosmographie de Hegel, ou même des conceptions de Hegel en matière de botanique ou de sciences naturelles.
Et pour vous, Robert Kopp
Oui, je pense que Étienne Alain Huber a tout à fait raison. Breton essayait de comprendre le monde comme un tout. Et ce qui lui importait, notamment, c'était cette connaissance par l'analogie, qui est un peu le contraire de la connaissance rationnelle. Et c'est en cela qu'il est aussi l'héritier des romantiques. Il ne faut pas oublier que Baudelaire était, comme Breton, grand lecteur de textes ésotériques, Swedenborg, Aliphas Lévy, l'abbé Constant, donc de textes tout à fait sérieux, mais qui essayaient d'établir des rapports entre des choses qui, a priori, n'en avaient pas. Breton voulait échapper à l'explication cause finaliste du monde, voulait échapper à l'explication positiviste pour essayer de donner une sorte d'interprétation poétique, de mettre en rapport des éléments qui, a priori, n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et c'est précisément aussi cette définition qu'il donne de l'image. L'étincelle jaillit du rapprochement d'éléments pris non pas au hasard, mais pour leur étrangeté, leur hétérogénéité.
C'est souligné aussi le rôle de l'expérience intérieure, l'expérience de la vie intérieure. Est-ce que c'était au détriment de la révolution, et en particulier de la révolution prolétarienne?
À un moment donné, au détriment peut-être. Breton et les surréalistes pensaient qu'il fallait révolutionner l'homme, mais aussi révolutionner la société, que l'un n'allait pas sans l'autre. Je crois qu'il faut rappeler aussi que l'événement capital a tout de même été la guerre de 14-18, que cette génération a subi de plein fouet. Dans sa 20e année, tous ces jeunes gens ont perdu 3, 4, 5, 6 ans. Et parmi les meilleures années de leur vie, au moment où on entre dans la vie, où on fait des études, où on fait des choix. Breton et les surréalistes en général ont été horrifiés par l'unanimité pour la guerre. Leurs aînés n'avaient rien à dire. Les meilleurs se sont tus, d'autres ont braillé pour chanter la guerre, pour exciter la haine de l'ennemi. Et donc, il y a cette unanimité pour la guerre aussi qui choque cette génération. Et cette Europe qui s'est tirée une balle dans la tête, en quelque sorte, cet humanisme qui conduit à cela, est évidemment une tradition avec laquelle Breton a des comptes à régler et qu'il ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à faire de la littérature comme si de rien n'était.
Étienne Alain Huber.
Oui, je voulais apporter une petite nuance parce que la guerre a été dénoncée par Breton, mais bien après. Ce qui est très frappant, c'est que ce soit dans les correspondances, dans les textes que Breton peut écrire pendant la guerre, puisqu'il a été étudiant en médecine, etc., il n'est pratiquement jamais question de la guerre. Ou alors la guerre est présente à travers une observation sur un malade mental qui a été choqué, etc. Et Breton, d'ailleurs, comme Aragon en 18-19, ils vont prendre ils vont mettre une extrême attention à ne jamais parler de la guerre, que ce soit pour ou que ce soit contre. Enfin, ils veulent se démarquer aussi bien de la littérature militariste que de la littérature antimilitariste. C'est très frappant, la littérature pacifiste. Et alors, il y a un texte, par exemple, on sort de Breton, mais un petit poème d'Aragon, par exemple, qui est très drôle. C'est un poème qui, en fait, est consacré à une chose absolument, absolument tragique, qu'Aragon révélera, sur lequel Aragon reviendra 30 ans plus tard dans des termes autrement graves. Mais Aragon est enseveli dans un trou d'obus par une explosion. Et alors, ça devient un poème drôle, un Braum. Et puis, c'est un petit poème qui est en feu de joie, d'ailleurs, le terme feu de joie. Et c'est après, en fin de compte, que c'est à la réflexion, peut-être, qu'ils se sont rendus compte des désastres qu'avait pu produire la guerre en eux, en eux et parmi leurs amis. Mais en 1920, ce sont des garçons ou des jeunes gens, n'est-ce pas, qui débordent dans le monde parisien avec une espèce de soif d'aventure intellectuelle, d'aventure poétique, qui est tout à fait étonnante. Aragon a évoqué de façon très, très puissante, d'ailleurs, dans un texte qui reste, malgré tout ce qu'on peut penser, du regard rétrospectif qu'Aragon a parfois sur le passé, qui reste très éclairant. Il dit comment, un jour avec Breton, fin 1918 ou début 1919, il se trouve à Paris, sur le boulevard Flandrin, près de la Porte Dauphine, et puis un grand vent qui souffle, un vent froid d'hiver, et c'est à ce moment-là qu'ils conçoivent le projet de la revue qui deviendra plus tard littérature. Pensant, dit-on, sur l'état d'esprit de ces jeunes gens qui ont envie surtout de s'évader, qui ne vont pas du tout rejoindre les rangs pacifistes, par exemple, ils auront d'ailleurs jetteront la dérision sur le pacifisme, et qui ne vont pas non plus, et qui évidemment ont horreur de la littérature de guerre, n'est-ce pas, et qui font un silence absolu sur le culte de, ou qui se moquent du culte du soldat inconnu.
Mais ce qu'ils voulaient, ces jeunes gens, et Breton en particulier, c'était la libération de l'esprit ou la libération de l'homme. Je repose autrement la question que j'ai posée à Robert.
La libération de l'homme, ça va un peu plus tard, n'est-ce pas ? C'est à partir de 25-26, quand il y aura cette adhésion au Parti communiste, qu'il faut d'ailleurs replacer dans son époque. En 25, 26, 27, 28, le Parti communiste, évidemment, ce n'est pas le Parti communiste de 36 ou de 45. C'est un parti qui a peu de... C'est un tout petit parti, c'est une petite secte, disons, qui est d'ailleurs pourchassée, enfin, au moment du cartel des gauches ou au moment des ministères des années 28-29. Il y aura toutes sortes de poursuites. Et ils vont vers le communisme comme on va vers ce qui incarne de la façon, d'une façon imparfaite sans doute, mais la plus exigeante, l'idée de révolution. Alors ils projettent, d'ailleurs on le voit dans les réunions qu'ils ont, qui sont des réunions dignes du comité de salut public, on voit dans ces comptes rendus comment ils se font une image un peu mythique, n'est-ce pas, de la Révolution française qu'ils projettent sur le monde contemporain. Et alors évidemment, cet enthousiasme, on peut s'en douter, ne pourra pas durer très longtemps.
Et pour Breton, le surréalisme, ça sera avant tout une aventure poétique.
Oui, ce sera une aventure poétique, mais c'est dans les années 20 tout de même la perspective d'une nouvelle guerre qui aiguise la conscience politique de Breton et des surréalistes, la guerre du Maroc. Et c'est à ce moment-là qu'il se rapproche de ce petit parti qui est le Parti communiste, comme en effet le seul parti révolutionnaire pur et dur, si l'on veut, dans le paysage des partis politiques français.
Oui, c'est-à-dire que la conscience politique passe par le mythe. Il y a ce grand mythe de l'Orient, qui est d'ailleurs très difficile à définir. Marguerite Bonnet avait écrit un superbe article qu'on ne trouve plus sur le sujet. Et l'Orient va symboliser d'abord l'échappée hors du monde occidental et de son rationalisme étouffant. Et puis aussi, l'Orient va se teinter de quelques lueurs de l'Est, de lueurs rouges venant de l'Est, et permettra aussi à quelqu'un comme Antonin Artaud de trouver un accueil exceptionnel, n'est-ce pas, pour ses idées prophétiques de recours au Dalai Lama, etc.
Oui, mais la déception viendra assez rapidement lorsqu'il comprendra que le communisme a des exigences en matière esthétique et qu'il ne s'agit pas de se livrer à des expériences de la vie intérieure, mais de produire des textes obéissant au réalisme socialiste ou des tableaux obéissant à l'esthétique du réalisme socialiste.
Voilà, ça va être tout le grand débat qui va conclure, qui va se amener le départ d'Aragon, les années 32, 33, 34, et à cette dénonciation violente du stalinisme, qui, pour Breton, à cette époque-là, ne s'accompagne nullement d'un renoncement à tout idéal révolutionnaire. Il faut voir ces grands textes des années 35, 36, ces conférences de Prague, hein, qui sont extrêmement vibrantes.
Il existe aujourd'hui pas mal de biographies d'André Breton, vous le rappeliez tout à l'heure, Robert Kopp, mais est-ce qu'il est vraiment possible aujourd'hui d'écrire l'histoire du surréalisme sans heurter bien des chapelles?
Oh, je pense qu'on peut commencer à le faire. D'abord, tout ce que... Et ça a été fait, oui. D'ailleurs, selon des points de vue assez divergents et assez contradictoires. Non, mais premièrement, il y a 4 volumes d'œuvres complètes avec des commentaires extrêmement précis, extrêmement abondants. Donc, les textes sont disponibles, parfaitement bien établis et fournissent un point de départ à tous ceux qui voudraient écrire... quelque chose est sur Breton et sur le surréalisme. Alors il y a
Tous les courageux qui s'y risqueraient.
Oui. Alors il y a des chapelles, il y a encore quelques momies surréalistes qui de temps en temps se réveillent quand quelqu'un touche à Breton qui n'a pas reçu les sacrements de la dite chapelle. Mais
je ne crois pas qu'il y ait de chapelle ou d'église aujourd'hui. Non, je ne pense pas.
Oh, il y en a.
Je ne pense pas. Non.
Non, vous ne pensez plus.
Non, absolument pas.
Voilà.
Non. Il y a des lecteurs, il y a des gens qui ont une fidélité, mais il n'y a pas de chapelle.
Il y en a qui aimeraient bien prendre la parole quand ce sont d'autres qui la prennent.
Je ne sais pas, à qui on la donne. Absolument.
Bon. Et si, pour revenir à votre question, on voulait écrire l'histoire ou écrire une nouvelle fois l'histoire du mouvement, il y a un pan qui manque encore, c'est la correspondance. La correspondance que Marguerite Bonnet a pu consulter pour son grand livre sur les débuts de l'aventure surréaliste, que Alain-Étienne Hubert a pu consulter pour son annotation, mais qui en principe est interdite de publication jusqu'en 2016.
Oui, interdite de publication, oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire que le cas de Marguerite Bonnet était un peu particulier parce que Breton, de son vivant, lui avait donné l'autorisation de citer ses lettres. Si bien que dans le grand livre de Marguerite Bonnet sur André Breton et l'aventure surréaliste.
Il y a
nombreuses citations de correspondances qui, évidemment, auxquelles on peut avoir accès,
oui.
Mais que l'on ne peut pas utiliser directement, d'ailleurs, dans
Non, on a le droit de citer des
choses. Je n'ai jamais publié de lettres, sinon faire des allusions, bien sûr, ou citer quelques expressions.
Donc ça veut dire qu'il faudra attendre 2016 pour avoir un cinquième volume des œuvres de Breton dans la
pays. C'est-à-dire que Breton avait eu un mouvement d'irritation contre, il faut bien dire, un universitaire indiscret qui avait été... qui s'est conduit avec lui d'une façon qu'il avait jugée inadmissible.
Alors à propos de Breton et du surréalisme, on a souvent insisté sur les dissensions, sur les ruptures, sur les exclusions. Et dans votre introduction, Étienne Alain Hubert, vous soulignez, vous, une toute autre dimension qui vous paraît essentielle et qui généralement est oubliée, c'est ce qu'on peut appeler tout simplement l'amitié.
Oui. Oui, je crois qu'il faut évidemment avoir sur ce groupe ou ce mouvement surréaliste, comme aimait dire Breton. Il n'aimait pas le terme de groupe, mouvement. Et ça correspondait à cette fascination qu'il avait pour le devenir. Un groupe, c'est une entité humaine qui est figée. Dans le mouvement surréaliste, étant donné la proximité, forcément, parfois très chaleureuse et parfois même trop chaleureuse, étant donné la proximité des aides qui étaient de formations différentes, de générations différentes, il ne pouvait y avoir que des rivalités, à l'occasion, des dissensions, ou voire même des désaccords. mais c'était en quelque sorte la contrepartie nécessaire d'une amitié, d'une solidarité, d'un partage des idées qui faisait tout le prix de ces réunions quotidiennes auxquelles le Breton assistait chaque jour, qui faisaient partie de son emploi du temps de la journée et qui étaient souvent très gais d'ailleurs. Les participants les survivants, enfin le terme n'est pas du tout péjoratif dans ma pensée, ont gardé le souvenir de réunions très drôles. Parfois, Breton, notamment, de façon absolument impayable, achetait le journal France Soir ou Paris Presse, qui paraissait le soir, et puis commentait les titres. Il commentait les titres, et alors il les lisait avec un étonnement, avec un humour absolument décapant. Et c'était une séance d'hilarité générale. Ouais. C'est un aspect qu'on a un peu oublié. Et puis, sans doute, il y avait dans ces réunions de café, il y avait sans doute pour Breton, cela répondait aussi à un besoin de faire marcher la vie, de faire marcher son esprit, de ne pas céder au découragement dans un monde qui, par bien des côtés, était fait pour le désespérer.
Donc vous pensez que sans cette mise en commun de la pensée, le surréalisme n'aurait pas donné les œuvres qu'il a données?
Je pense que ça a été très fécond. Je ne sais pas ce qu'aurait été Breton, un Breton solitaire. On peut toujours rêver d'une autre destinée. Breton dans un phare, comme dans le projet de poème de Baudelaire, c'est pas enfermé dans un phare. Je ne sais pas ce qui serait passé. Mais en tout cas, tel que s'est déroulé sur Elie, sa dimension collective, qui a de multiples, évidemment, de multiples sens, qui peut aussi bien se référer à l'idée d'une poésie faite par tous et non par un, aussi bien qu'engendrer des expériences collectives comme les jeux, cette dimension collective est tout à fait inhérente au surréaliste. Mmh. On ne peut pas imaginer un surréalisme français qui aurait été fait d'une collection d'individus qui se seraient simplement correspondu entre eux, comme par exemple le groupe de la Nouvelle Revue Française a souvent pratiqué, de façon très féconde d'ailleurs, la relation interhumaine.
Alors on a ouvert une parenthèse sur l'amitié, on peut peut-être ne pas la refermer tout à fait, franchir un pas de plus et parler de l'amour.
Oui, alors l'amour, Breton était un homme de grande passion, également de grande fidélité. Et les femmes ont effectivement joué un grand rôle dans sa vie. Et à partir de ses expériences successives, vous savez qu'il a... Il a fait écrire des textes qui ont chacun leur tonalité propre, que ce soit l'amour fou avec cette attention extrême et vibrante apportée à ce qui fait de chaque réalité, de chaque coin de Paris, un lieu magique, ou bien dans Arcane 17, où est évoqué avec une ferveur extrême la figure d'Elisa.
Et l'amour donc, fou, c'est donc, c'est pas un mot, c'est une réalité.
Je pense que ça correspond en lui à une réalité. Et encore une fois, il y a une tonalité très différente dans ces textes, car ce qui est frappant dans l'œuvre de Breton, c'est qu'aucun livre ne répète le précédent. Il y a chez lui un besoin très fort de s'affranchir du passé. Ce n'est pas un homme qui aime se remémorer, n'est-ce pas, sauf dans ses entretiens où il est, qui a un autre horizon. Mais il n'aime pas remémorer, ce n'est pas un homme du souvenir, alors qu'on pourrait dire que le culte de la mémoire, le culte du souvenir, enfin depuis Proust, est une sorte de point fort de notre XXe siècle. Mais il faut aller de l'avant, et le livre doit être toujours une sorte de redécouverte. Toute cette variété qui peut évidemment très surprendre le lecteur entre les textes que rassemblent ces œuvres complètes. Ce sont des textes qui ont des statuts tout à fait différents, et dans lesquels nous sommes amenés, nous lecteurs, à avoir des postures de lecture différentes.
Alors Robert Cope insiste dans l'album Breton sur le rôle moteur de l'image, et ce volume, le quatrième des œuvres complètes dans la Pléiade, rassemble la plupart des écrits de Breton sur l'art, écrits sur l'art, donc des textes qui s'échelonnent de 1954 à sa mort en 1966.
Et qui vont encore beaucoup plus loin, parce que variété, oui, mais continuité aussi. La réflexion sur l'art et les artistes est présente chez Breton du début jusqu'à la fin de sa carrière.
Et le texte, début, pas tout à fait, n'est-ce pas? C'est un peu...
Un des premiers textes, c'est l'exposition Max Ernst.
Oui, c'est ça.
Au Sans Pareil.
Mais, par exemple, dans sa jeunesse, c'est très frappant de voir que il n'a pas encore le culte des images, si vous voulez. Dans ses correspondances de jeunesse, par exemple, les expositions, il va aux expositions,
Il commence à avoir le culte des images au début des années 20, quand il rencontre...
C'est très complexe.
Max Ernst,
Picabia, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il arrive à la peinture par la voie de la littérature. Par exemple, en 1913, il va voir le Salon des Indépendants. Il n'est pas séduit par le Salon des Indépendants, où pourtant, évidemment, aujourd'hui, à côté de toutes sortes de noms oubliés, on voit aussi des noms tout à fait éclatants, comme Delaunay, comme Picabia, etc. Bon. Il dit que finalement, ça ne l'enthousiasme pas. Et en revanche, il est à l'époque très fasciné par tous les peintres qui ont, si je puis dire, une aura de littérature. Les peintres qu'ont évoqué les écrivains symbolistes, les pré-raphaélites anglais, par exemple, qui traînent derrière eux tout un nuage de légendes, de traditions plus ou moins féeriques ou poétiques. Il est passionné par Gustave Moreau parce qu'il découvre Gustave Moreau à travers Jean Lorrain. À travers Monsieur de Focas de Jean Lorrain. Et c'est Monsieur de Focas de Jean Lorrain qui va l'ouvrir à Gustave Moreau. Il va aller au musée Gustave Moreau. Ça passe par la littérature. S'il s'intéresse à Uccello, c'est à cause de la vie imaginaire d'Uccello que fait Marcel Schwab. C'est à cause de Schwab. Et on peut penser que la peinture post-symboliste l'intéresse aussi par le rapport qu'elle entretient, par le biais d'articles ou par le biais d'illustrations, avec la poésie post-symboliste. Et puis alors, à partir de 1919-1920, vous avez tout à fait raison, il y a un changement. Et il va découvrir, mais là aussi, quand il s'intéresse à Max Ernst, c'est parce qu'il projette sur Max Ernst la théorie de l'image de Reverdy.
Oui, tout à fait.
Il découvre dans Max Ernst quelqu'un qui, par ses collages, rapproche des réalités lointaines. Alors Breton pousse à l'extrême la théorie de l'image de Reverdy en disant qu'il ne s'agit pas d'établir des rapports lointains mais justes, mais de faire éclater, en quelque sorte, entre deux pôles, un pôle plus et un pôle moins, une étincelle puissante. Mais c'est aussi par la littérature ou par la théorie de la poésie qu'il vient à Max Ernst, qu'il va trouver en quelque sorte des concepts et même un discours pour qualifier cet art tout à fait nouveau, évidemment, qui n'a pas de précédent, qui est l'art du collage. Alors, on pourrait dire que le surréalisme à la peinture, en gros, les textes que...
Ça, c'est la pièce maîtresse du volume,
C'est la pièce maîtresse, ça nous remonte, ça a une ouverture de compas dans le passé, ça nous remonte à 1925, les textes les plus anciens de 1925, et ce sont des textes qui sont pleins de littérature. Il écrit sur la peinture, mais il projette sur Picasso, il projette Rimbaud, il projette Lautréamont sur Picasso. Le discours, par exemple, sur le cubisme, qui est un discours généralement très dépréciatif, n'a rien à voir avec le discours sur le cubisme que peuvent tenir des contemporains amis, des peintres cubistes comme Apollinaire et bien sûr comme Reverdy. C'est un discours qui, en quelque sorte, isole entièrement la nouvelle approche de la matière, la nouvelle approche des formes que pratiquait le cubisme, pour chercher des correspondances tout à fait imprévisibles, imprévues, entre tel tableau de Picasso et telle phrase de Rimbaud. La littérature est partout présente, et elle est présente parfois de façon tout à fait angoissante pour la lecture, qui découvre une expression entre guillemets sans connaître l'auteur de la citation, et qui parfois découvre, parfois n'arrive pas à identifier, j'ose le dire.
Étienne Alain Hubert et Robert Kopp parlaient des écrits sur l'art et autres textes d'André Breton. C'est le quatrième volume de ses œuvres complètes dans la Pléiade, et Robert Kopp de l'album Breton qui paraît dans la même collection. Du jour au lendemain, Angélique Thibault, Philippe Brodin, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.